Bon, ben merci aux organisateurs de m'avoir invité pour me permettre de défendre, de présenter les idées et les solutions de SGS sur différentes questions qui ont été abordées de multiples fois d'hier et ce matin. Alors, The Self Journal of Science n'est pas un journal, mais un entrepôt, donc un repository très spécial qui offre à la communauté scientifique les moyens et surtout les raisons, les incitations de gérer la publication de manière complètement ouverte et auto-organisée. Alors, à la fin de cette courte présentation, je vous montrerai donc concrètement de nouveaux indicateurs numériques pour valoriser un article. Cependant, le plus important est bien de comprendre toute la réflexion en amont pour expliquer ce qui ne va fondamentalement pas dans le système actuel et comment se positionner pour résoudre en pratique les problèmes. Donc pour cela, le meilleur point de départ consiste à prendre un temps pour réaffirmer ce qu'est la science. Alors, la science est une démarche de production de connaissances qu'on peut décrire en deux étapes. La première, c'est la recherche, au cours de laquelle une personne ou un groupe de personnes travaille à établir une proposition, donc une thèse, qui satisfasse des conditions de clarté, de transparence et de réfutabilité. Pour être recevable scientifiquement, une thèse doit comporter des énoncés bien définis qui peuvent être réfutés. Pour des expériences, cela équivaut à être reproductible. La deuxième étape, qui est d'égale importance, est la publication, au sens étymologique, de rendre public. Donc la thèse va être confrontée et faire l'objet d'un débat au sein de la communauté scientifique jusqu'à ce qu'un consensus se forme. S'il est positif, la thèse scientifique est alors promue en fait scientifique. C'est le processus de peer review. Donc il est extrêmement exigeant et c'est lui qui fait toute la force et les garanties de la connaissance scientifique. Le deuxième but de la publication, c'est d'établir collectivement l'importance de l'article et de l'intégrer dans le tableau général de la connaissance. C'est l'évaluation. Donc ainsi, contrairement à la publication de romans, par exemple, la publication scientifique est un processus communautaire qui, à ce titre, ne peut être que public et ouvert. Donc elle implique que les scientifiques disposent d'un lieu adapté où ils peuvent se réunir, exposer leurs thèses, en débattre et les évaluer, c'est-à-dire exercer leurs trois mandats fondamentaux de chercheur-auteur, de relecteur et d'évaluateur. Donc pendant longtemps, l'impossibilité technologique de construire une telle place a nécessité de recourir à des intermédiaires, donc les journaux, ce qui a ensuite conduit à un fonctionnement très différent. Cependant, aujourd'hui, grâce à Internet, tous les scientifiques sont interconnectés et la science peut désormais fonctionner selon cette définition, donc en ligne, sans intermédiaire, pour le plus grand bien de la connaissance, des scientifiques eux-mêmes et aussi du contribuable. Donc SGS se veut la place publique où la science est publiée directement ainsi. Alors quelques mots sur le système actuel. Donc il est clair que beaucoup de choses ne vont pas. Et le pire, est encore à venir, lorsqu'on va commencer à sérieusement quantifier toute l'irreproductibilité que produit le système actuel, surtout en sciences biomédicales. Ça commence à exploser. Mon analyse est que toutes les défaillances actuelles ont une racine commune. À travers l'adoption du facteur d'impact comme critère d'évaluation durant la seconde moitié du XXe siècle, la communauté scientifique a globalement été dépossédée du pouvoir d'évaluer. Aujourd'hui, la valeur d'un article réside dans sa publication quelque part. Les créateurs effectifs de valeur en science, ce sont donc ceux qui ont le pouvoir d'en décider. Ce sont les éditeurs de journaux, qui sont une toute petite minorité de scientifiques. Cette privatisation de l'évaluation, donc, qui est en soi déjà très critiquable, va surtout créer une terrible logique de système qui atomise la communauté scientifique. Donc nous, moi, les 99% qui n'avons plus le pouvoir de créer de la valeur en science, nous allons artificiellement nous retrouver tous en concurrence les uns contre les autres pour l'obtenir au prix du 1% qui peut l'accorder et qui n'accordera pas à tout le monde. Les places dans Nature sont limitées. Nous avons alors intérêt à nous éviter, de peur par exemple de donner une information utile à un concurrent. Donc c'est donc ça le plus terrible dans ce système. Dans cette organisation asymétrique, il ne peut pas y avoir de peer review, c'est-à-dire de débat contradictoire entre pairs à la recherche du consensus, car les relations entre pairs sont fondamentalement conflictuelles. Donc il ne peut y avoir que cette chose qu'on appelle à tort aujourd'hui peer review, qui est un espèce de tribunal, donc à huis clos, avec des jurés anonymes, dans le secret d'une boîte mail, et dont la finalité est une décision binaire d'acceptation ou de rejet. Donc, je n'expliciterai pas longtemps tout ce qu'on perd scientifiquement et économiquement à avoir un processus de publication entièrement privatisé. Donc une évaluation privée produit du conservatisme, du dogmatisme, du clientélisme, au moins au sens général, où c'est plus facile de publier, enfin la publication est plus facile pour quelqu'un qui a déjà publié et plus difficile pour des nouveaux entrants comme les doctorants. Les enjeux de la compétition se déconnectent de la science, donc les éditeurs veulent optimiser leurs facteurs d'impact et par exemple aujourd'hui, conséquence, on ne peut plus publier de réplication d'expérience, ce qui est pourtant essentiel en science. Un peer review privé est trop limité pour pouvoir donner de vraies garanties scientifiques. Tous les biais imaginables peuvent s'y produire et en plus c'est très inefficace que chaque journal organise sa propre procédure puisqu'au final ce sont les articles les plus rejetés, les plus resoumis, donc en moyenne les moins intéressants, qui vont prendre le plus de temps de travail à la communauté. Ça devrait être l'inverse, on devrait se concentrer sur les articles qui sont les plus intéressants pour être sûr qu'ils sont bons. Bon, enfin, les problèmes de coûts et d'open access associés à une diffusion privée donc sont bien connus, bien ressentis par tout le monde, mais ce ne seraient même pas les seuls. Bref. Donc le but profond de SJS est de revenir à un fonctionnement communautaire, et c'est impossible dans l'organisation asymétrique actuelle. Donc il faut créer une logique sociale vertueuse de la publication où les scientifiques ont intérêt à se parler. Donc le moyen de SJS consiste à redonner à chacun le pouvoir de créer de la valeur en interagissant avec ses pairs. Donc voici les principes. Premièrement, dans SJS, les scientifiques ne sont pas des métadonnées d'articles, mais ce sont des personnes responsables, membres à part entière de la communauté scientifique, qui ont les moyens autonomes d'exercer leur mandat dans ces trois dimensions, chercheur, auteur, relecteur, évaluateur. Donc les scientifiques ont un compte personnel, donc qui est nominatif, et qui est public, et qui reflètent leur individualité et qui compilent toutes leurs informations scientifiques, donc avec à minima l'affiliation dont ils ont dû justifier pour pouvoir s'inscrire sur le site, et ainsi que toutes leurs activités donc de chercheur-auteur, de relecteur et d'évaluateur. J'y reviendrai. Donc on cherche souvent des incitations pour pousser les scientifiques à adopter des pratiques ouvertes. La première incitation de SJS, c'est de retrouver son pouvoir d'influencer directement le cours de la science. C'est à mon avis une des meilleures incitations possibles. Le deuxième principe, c'est qu'il n'y a pas d'autorité sur SJS. Aucun des processus de SJS n'a de conclusion qui soit décidée par un sous-ensemble quelconque de la communauté scientifique. Ceci assure que le fonctionnement de SJS ne peut pas être privatisé et ne reproduira pas les défauts du système actuel. Sur SJS, la science évolue par la recherche collective d'un consensus explicite qui ne peut pas être imposé. Donc la discussion et la contradiction se font toujours entre égaux, même s'il y a un seul à raison au final. Donc je précise que l'absence d'autorité n'empêche pas l'émergence d'un leadership. Il est normal que certains scientifiques soient plus écoutés et suivis que d'autres, car ce qu'ils disent et font est manifestement meilleur, mais ils n'auront jamais le pouvoir d'imposer à tous leur point de vue. Troisièmement, la valeur d'un acte scientifique sur RGS vient de la reconnaissance collective qu'il suscite. Donc c'est là le point important. Cette reconnaissance qu'un scientifique désire pour son travail, il est en mesure de créer la sienne et de la donner aux autres pour leur travail. Ainsi, sur SJS, le jeu social derrière la publication est complètement symétrique. Dans de telles conditions, la stratégie gagnante pour se distinguer individuellement et sortir du lot est de donner pour recevoir. Autrement dit, de faire à autrui ce qu'on voudrait qu'il nous fasse. Pour que vos travaux prennent de la valeur, il faut que vos pairs s'y intéressent et viennent en débattre de manière constructive. Pour stimuler cela, la meilleure chose à faire est de vous-même vous intéresser aux travaux de vos pairs et de leur faire des retours constructifs. Ainsi, l'ouverture et la collaboration sont les pratiques gagnantes sur SJS. Si un scientifique ne les adopte pas par éthique, il le fera au moins par intérêt personnel. Donc dans cette logique, l'intérêt supérieur de la science coïncide avec l'intérêt des scientifiques. Et ainsi, la science pourra atteindre un niveau de qualité incomparable. Bon, maintenant, je vais discuter concrètement de la valeur d'un article scientifique. Donc, on commence par définir qu'est-ce que c'est. La valeur d'un article scientifique, c'est l'agrégat des jugements que chaque membre de la communauté porte sur lui. Cette définition dit bien que la valeur scientifique ne peut s'appuyer que sur le jugement des scientifiques. Donc, je tiens pour un terrible contresens tout ce qui est proposé sur la notion, souvent floue d'ailleurs, d'impact, à savoir toute métrique construite sur des données de trafic ou de connexion qui ne sont pas des actes de jugement, comme la citation par exemple. Il y a même des scénarios où c'est la faible valeur d'un article qui va faire son grand impact. Donc SJS va matérialiser et quantifier cette valeur ainsi définie grâce à des mécanismes de collecte, donc en anglais curation, selon trois axes. Donc ces trois axes me paraissent personnellement satisfaisants pour établir le profil d'un article, mais on peut toujours les compléter par d'autres à condition de trouver un bon mécanisme de collecte. Le premier axe, c'est la priorité. C'est une notion de court terme qui permet de quantifier l'intérêt a priori d'un article, donc avant tout examen approfondi. Donc je n'aurai pas le temps de développer. Le deuxième est la validité qui s'établit par le processus de peer review. Et le troisième, c'est l'importance, donc, qui est le critère de GS qui a vocation à nous libérer du facteur d'impact. Donc, il est temps de passer sur le site pour faire quelques démonstrations en ligne, en commençant par le peer review. Donc voilà la page d'accueil du site. Donc le peer review, c'est un débat contradictoire, je le répète, c'est un débat contradictoire entre pairs dont le but est d'atteindre un consensus. La forme naturelle et historique du peer review est la conférence, où l'auteur se tient devant ses pairs rassemblés, défend sa thèse et répond aux questions et critiques qui lui sont faites. Donc SGS va en transposer le principe en ligne avec de nombreuses améliorations que permet Internet. Donc prenons l'exemple de cet article. Lorsqu'un scientifique se sent prêt au débat et fait la démarche de déposer son article sur SGS, cette interface est automatiquement créée. Bon, alors, tout d'abord, on a un en-tête avec toutes les métadonnées habituelles, hein, le type d'article, le titre, le numéro de version, la date, la licence utilisée, auteur, affiliation, etc. Mais le point important, c'est que tout le corps de l'article est rendu interactif, comme vous pouvez le voir. Et des forums sont attachés à chaque paragraphe de l'article, ce qui permet à tout utilisateur de SGS de précisément venir discuter, débattre de chacune des assertions de l'article. Par exemple, celui-là. Donc, tous les échanges sont publics, datés et signés. Voilà, donc, cette interface donc, permet de bien organiser donc, le débat et de tout rendre techniquement facile pour les relecteurs. Mais là n'est pas l'essentiel. Là, l'important est que le débat associé à un article, lui, est physiquement lié. Le peer review n'est pas une étape dans la construction d'un article, dans la production d'un article. Il fait partie de l'article. Oui. J'en étais où là ? Donc voilà. Donc ceci remet le peer review sur le devant de la scène, donc lui redonne son importance fondatrice et surtout encourage les scientifiques à le faire et à le faire bien. En effet, cette interface garantit que les reviews auront la même visibilité que l'article lui-même. Donc tous les lecteurs suivants de l'article les verront, et pour cette raison aussi, ils susciteront toujours une réponse de l'auteur qui ne peut pas se permettre de laisser une bonne critique ouverte sans réponse. Donc l'impact du review est garanti. Ensuite, il est valorisé de deux manières différentes. La première, c'est le plébiscite des autres lecteurs de l'article qui s'exprime par ces boutons d'évaluation. La deuxième forme de reconnaissance que peut recevoir un review, c'est une reconnaissance de l'auteur lui-même qui va pouvoir distinguer les reviews qui lui ont été le plus utiles pour améliorer son article, à la suite de quoi le relecteur sera remercié dans l'en-tête de toutes les révisions suivantes de l'article. Donc ceci achève de créer la dynamique collaborative entre auteur et relecteur, où tout le monde gagne à la critique constructive. Donc je mentionne aussi que cette interface dynamique permet de satisfaire un besoin psychologique profond du scientifique, qui est celui de se sentir activement contribuer au progrès de la science, de manière visible et reconnue. Donc voilà très rapidement ce que propose SGS pour le peer review. Maintenant, quelle métrique ? Donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la finalité du peer review, c'est d'atteindre un consensus à propos de l'article. Donc cette définition porte directement en elle sa métrique, qui est naturelle, parfaitement adaptée, qui est le degré de consensus réalisé par la version courante d'un article. Sur SGS, cela se mesure simplement par ce vote non anonyme entre deux possibilités mutuellement exclusives, This article has reached scientific standards, This article still needs revisions. Alors, évidemment, ce vote n'est pas anonyme, et SGS vous permet donc de savoir qui pense quoi sur la question de la validité de l'article. Donc, par exemple, Konrad Insen, Samuel Demarter et Stanley Faes pensent que cet article est achevé, tandis que Stéphane Vautier et Thomas Guillemot ne le pensent pas, pour des raisons qui sont expliquées dans les forums de l'article. Donc, si vous voulez savoir qui sont ces chercheurs, vous cliquez sur leur nom et vous êtes transporté sur leur page personnelle qui contient toutes leurs informations scientifiques. Enfin, donc SGS vous donne tout l'agrégat des jugements des scientifiques sur la question de la validité. Et pour des commodités d'emploi, il est possible de condenser cet agrégat en un indicateur numérique qui serait ici ce pourcentage donc de 3 sur 5, de 60%. Donc SGS offre directement ce nombre, mais donne aussi toute l'information nécessaire pour l'interpréter correctement. Maintenant, je vous montrerai rapidement le mécanisme de collecte de SGS sur la question de l'importance. Alors, je vais aller sur mon compte pour cela. Donc, vous voyez donc qui je suis, toute mon activité de chercheur-auteur, tous les reviews que j'ai pu écrire sur d'autres articles, et vous pouvez voir mon self-journal. Alors, qu'est-ce que c'est ? SGS donne à tous les scientifiques les moyens de tenir leur propre self-journal. Un self-journal, c'est une sélection d'articles, donc déposés sur SGS ou même publiés ailleurs, qui est annotée par le scientifique et sur laquelle il engage son nom. Donc, les scientifiques ont une vision de leur domaine plus large que ce qu'ils expriment dans leurs propres recherches, et le but est de leur permettre de la faire connaître en recommandant des articles, en les commentant, et aussi en explicitant leur ligne éditoriale dans un édito. Donc, c'est très profitable pour tout le monde scientifiquement, mais en premier lieu pour le scientifique, dont la vision personnelle se diffuse et va influencer le cours de son domaine et lui donner beaucoup plus de visibilité. Tout le monde a donc intérêt à bien tenir son self-journal, et y intégrer un article est évidemment un acte de jugement très sérieux. On y engage son nom. Au final, la valeur d'un article donné se voit à travers sa sélection dans les self-journaux. Donc SGS vous donne toute l'information de qui a sélectionné quoi et dans quel contexte. Et encore une fois, il est possible de cet agrégat très riche d'en faire un indicateur numérique plus simple. L'importance d'un article est reflétée par son nombre de curateurs. Donc, contrairement aux facteurs d'impact, cet indice numérique repose sur un jugement scientifique, se rapporte bien individuellement à un article, et est aussi très dur à manipuler, puisqu'il empêche par exemple deux complices de créer des boucles infinies pour mutuellement augmenter leurs statistiques. C'est donc une alternative très souhaitable aux facteurs d'impact. Donc voilà donc quelques principes, autant de choses que j'ai pu vous dire en un quart d'heure, évidemment il y a beaucoup d'autres développements nécessaires. Donc, mais en gros, SGS comporte des incitations très fortes pour l'immense majorité des scientifiques, permet de recréer la dynamique communautaire et de faire marcher le peer review et l'évaluation donc d'une manière qui est bien définie, qui est traçable, qui est collaborative et au plus près de l'éthique scientifique. Donc, deux derniers mots de conclusion. Cette plateforme donc, est très légère et permet de gérer toute la publication scientifique pour environ un millième des coûts actuels. Enfin, comme SGS n'est pas un journal, mais est un entrepôt non commercial, le dépôt sur SGS est compatible avec la publication dans des journaux et évidemment avec le dépôt dans toute autre archive. Donc une éventuelle transition pourrait se faire tout à fait pacifiquement et sans coût supplémentaire. Il faut juste être suffisamment nombreux à commencer à passer à l'action. Une fois que la dynamique vertueuse de SGS se crée, tout peut aller très vite. Mais merci beaucoup de votre attention et je serai heureux de répondre à des questions maintenant ou plus tard. Ou...
Merci beaucoup.
Oui, une question à Jean-François Bach. Une des conséquences de la critique que vous avez faite et qui me paraît tout à fait appropriée, c'est comment pouvons-nous nous organiser au niveau transdisciplinaire et évidemment international pour faire en sorte que justement on arrive à construire des modèles de publication et d'évaluation des contributions qui soient mieux acceptées. Mais au moins, comment est-ce qu'on peut faire pour réfléchir à ceci de façon transdisciplinaire et internationale ?
Bon, transdisciplinaire, ça peut se faire au niveau de certaines instances multidisciplinaires. Donc, je pense que l'Académie des sciences peut en représenter une, il y en a d'autres. Au niveau international, c'est plus compliqué, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense néanmoins que quand on regarde qui finalement soutient le coût des publications dans les pays scientifiquement développés. Le nombre d'institutions, je mettrai à part les États-Unis parce que c'est compliqué. C'est très important, les États-Unis, mais c'est compliqué. Mais en Europe, le nombre d'institutions n'est pas considérable. Couperin, vous les connaissez bien, parce qu'ils sont en quelque sorte vos abonnés, si j'ose dire. Mais il y en a, quand on regarde en Allemagne, il n'y en a pas 50, il y en a 3 ou 4. En Angleterre, vous avez un petit nombre. Je pense que c'était ça notre espoir avec Denis, c'est de dire, si on arrive à réunir les protagonistes des 7 ou 6 ou 7 grands pays européens, pour commencer, puis après, s'y adjoignent les grands pays scientifiques en dehors de l'Europe. Bon, alors bien sûr, il y a les pays émergents, mais les pays émergents, finalement, dans le cas particulier, on travaille pour eux, parce qu'on essaye d'obtenir l'accès gratuit aux publications. Donc, s'ils peuvent contribuer, tant mieux. Le Brésil peut peut-être le faire, je ne sais pas. Mais le nombre de protagonistes, le nombre d'acteurs n'est pas si grand que cela. Donc, si on arrivait à réunir ces gens-là, on pourrait peut-être y arriver. Moi, je suis frappé par le fait que les gouvernements de ces pays sont assez d'accord. On a parlé encore récemment avec Thierry Mondon, on avait parlé avec son prédécesseur et avec d'autres. Il y a, les pouvoirs politiques sont assez intéressés par ce type de démarche. Donc là, il y a les organismes de recherche, les universités et les gouvernements. Ce sont, c'est pas 50 personnes, c'est pas 50 groupes, il y en a peut-être une trentaine. Je pense que si on arrivait à les réunir progressivement, je peux vous dire que c'est très difficile. Malheureusement, mais je ne désespère pas.
Merci. Frédéric Hélin, responsable scientifique du réseau de biotech de mathématiques, national de mathématiques. Je voulais faire une remarque à propos de l'intervention de Jean-François Bach, à nouveau. À propos des modèles économiques, enfin du rôle des modèles économiques et dans la qualité des revues, et notamment le fait que depuis une quinzaine d'années, on est passé d'un système d'abonnement aux revues individuelles à un système d'abonnement par bouquet, qui a fait qu'il est très difficile pour les bibliothèques de sélectionner dans le bouquet quelle est la revue qui les intéresse et quelles sont les revues qui n'ont aucun intérêt et qui obligent à payer pour des revues qui finalement ne contiennent beaucoup d'articles de qualité moindre. Et donc ce système de passage au bouquet a un rôle pervers sur la qualité, puisqu'il supprime une sélection naturelle qui existait auparavant, qui faisait qu'avec leur budget limité, les bibliothèques choisissaient de se concentrer sur certaines revues et pas d'autres. Avec l'open access, le problème est peut-être encore pire, puisqu'on a encore moins de contrôle. Il y a moins de contrôle au niveau économique par les consommateurs, enfin consommateurs au sens bibliothèque, qui finance le système. Et donc, je pense que dans toute solution de type open access, il faut garder à l'esprit un retour des bibliothèques, ou d'une certaine façon de consortiums de bibliothèques ou d'institutions scientifiques, des mécanismes économiques qui vont opérer une sélection naturelle. Ces mécanismes sont relativement absents des modèles. Pour l'instant, je pense que les seules initiatives qui vont dans ce sens sont des initiatives de type crowdfunding, dans lesquelles des consortiums de bibliothèques ou d'institutions décident de financer telle chose, telle édition, et pas telle autre. Et y compris, donc, il y a un exemple comme Knowledge Unlatched, dans lequel ce financement va vers des revues.
Vous soulevez un problème qui est évidemment très important. Là aussi, je pense que si on arrivait à se rapprocher, on a parlé avec Jean-Pierre Finance à plusieurs reprises, cette clause de confidentialité demandée par certains éditeurs est terrible. Elle n'existe pas dans beaucoup d'autres domaines de la société. Il est évident que si on pouvait arriver ensemble devant les éditeurs, ça serait déjà un progrès. Et là aussi, il y a beaucoup à faire parce que ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, les éditeurs en question font tout pour qu'on ne le fasse pas. Mais vous avez raison, les bouquets, c'est dangereux. Nous sommes tout à fait conscients de cela. Et moi, je suis entièrement d'accord à titre personnel.
Le problème pour moi, à la base, c'est que le pouvoir de décider ce qu'il y a de la valeur en science, il appartient à tous les scientifiques. Ce n'est pas légitime que ce soit seulement 1% des gens, ou moins de 1% des gens qui l'exercent. Vous n'aurez jamais l'open access, ça fait 20 ans qu'on essaie, vous n'aurez jamais l'open access si vous laissez à une minorité le pouvoir exclusif de décider de ce qui a de la valeur en science. Le changement ne peut pas se faire de haut en bas. Il faut forcément redistribuer le pouvoir en science. Ce seront toujours les éditeurs. Dans le rapport de force actuelle, ce sont toujours les éditeurs qui ont le dernier mot. Il n'y a pas de vrai pouvoir de négociation. C'est pas Si même 99% de la commission scientifique arrive à se rassembler pour signifier son désaccord, c'est les éditeurs qui décident de ce qui rentre ou pas dans Nature, dans Science. Et au final, tant qu'on ne change pas ça, rien ne peut changer.
Bien, je suis désolé. Alors, une dernière salle d'applaudissements pour deux premiers intervenants.